Hey les boys and girls, bienvenue à ce podcast. Mon nom est Martin, mais on m'appelle Mark.
Moi c'est Francis, mais je préfère Frank.
Et vous écoutez Deux Geeks dans la quarantaine.
Bienvenue. Bon, alors, petit rappel dans notre podcast, évidemment. Et nos petites jokes, c'est notre façon d'essayer d'exprimer les trucs qui nous traversent l'esprit et qui nous font rire. C'est pas nécessairement notre pensée qui est reflétée là-dedans. Et ça se peut qu'on ait des jokes un peu grosses ou un peu à caractère adulte, alors c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde.
Et si vous avez moins de 18 ans, ben on vous suggère d'aller voir une magnifique vidéo de Pokémon sur YouTube.
Alors,
aujourd'hui, nous sommes... Tu veux toujours faire ça? Je t'habitue.
Ben, j'allais le faire pour celui-là, pour faire un changement. Alors, aujourd'hui, le 16 février...
On enregistre présentement, donc ça se peut que vous nous écoutez après le 16. Comme d'habitude, on va commencer avec quelques nouvelles. Ensuite, tu vas parler de quoi, Francis, aujourd'hui?
Moi, ça me tentait de faire un changement un peu de ce que je faisais les fois d'avant. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu sur les jeux de société. Je parlerai pas une tonne... Mais j'en ai quand même trois que j'aimerais présenter. Un, parce que le jeu a l'air extrêmement plaisant, mais il a été décevant. Les deux autres sont particulièrement agréables à jouer pour pouvoir compenser.
Compenser quoi?
Le côté déplaisant du premier que j'ai
joué. OK. On va se mettre sûr pour pas qu'il y ait une petite vieille de 90 ans qui
va faire... Ah ouais, ça va si mal dans leur vie à ces deux-là, pauvres, je vais leur envoyer de l'argent.
Et finalement, ben moi, je vais, comme toujours, on va faire une petite chronique jeux vidéo. Je vais vous parler d'un très, très, très pénible jeu auquel j'ai joué juste avant Noël, qui date de très longtemps, de 1980...
Peux-tu aller arrêter la tondeuse dans le garage, là?
Qui est sorti en 1987. Un jeu qui s'appelle Glory of Heracles, un petit jeu sur la mythologie grecque, mais qui m'a fait frustrer.
Ah, je pensais que t'allais dire Glory Hole of Heracles.
Non, ça c'est la version hentai, puis j'ai pas vraiment envie d'y jouer. Parce que s'il faut qu'il y ait des profondeurs de la Dice...
T'as pas envie d'y pénétrer.
Non, je veux pas aller dans le côté obscur.
C'était la joke Star Wars.
C'était la joke Star Wars.
Star Wars, tabarnak. Et tu manges tes mots aujourd'hui.
Et c'était la joke Star Wars de la journée. Ne manquez pas la semaine prochaine, on va parler de Jar Jar Binks. OK. Donc, des petites nouvelles. On commence par les nouvelles. Donc, première nouvelle, celle-là, je pense que ça va peut-être t'intéresser, mais je sais pas. T'écoutais ça, toi, les maîtres de l'univers quand t'étais jeune?
Non, moi, quand ça a commencé, j'avais pas le temps d'écouter ça. J'étais tout le temps rendu dehors.
Mais t'as quand même une idée de quoi je parle, ou sinon je passe à la nouvelle suivante.
J'en ai vu... J'ai pas vu les dessins animés ben. Disons que j'ai vu le film quand il est sorti, qui était quand même passablement mauvais. Que...
Avec Courtney Cox, pis l'acteur qui jouait Drago dans Rocky IV.
Oui, exactement.
Non, attends, c'était-tu Courtney Cox ou c'était Jennifer Aniston qui jouait là-dedans? Courtney Cox. Jennifer Aniston, c'est l'abominable lutin qu'elle a joué dedans.
Ouais, je pourrais pas dire.
Je sais que c'est une des filles qui jouait dans Friends. C'était au début de sa carrière.
OK.
Je pense qu'elle a pris du liquid paper pour aller effacer ça de son CV.
La seule affaire que je me rappelle de ces dessins animés-là, parce que j'en ai croisé quelques-uns, c'est que le héros avec le chandail rose, ça le faisait pas.
Ah, tu sais, ça, c'était son costume de prince, puis il se transformait en musclore He-Man grâce à la grosse épée bizarre.
Oui, j'ai le pouvoir.
Et il se battait contre un gars squelettique qui avait l'air aussi gay.
Savais-tu que la série de jouets He-Man est sortie pour essayer de répondre...
C'était
plus les G.I. Joe à l'époque, mais c'était surtout pour répondre aux besoins qu'avaient les gars d'avoir une figure qui leur amenait quelque chose pour se remonter le moral ou quelque chose comme ça. Puis c'est pour ça qu'ils ont sorti un jouet, une figurine qui était un homme extrêmement musclé. Il était absolument pas habillé en rose sur les figurines. Il avait la catchphrase, c'est quoi en français? Le leitmotiv.
Je détiens le pouvoir.
C'était censé être la phrase qui allait captiver les petits garçons. Jusqu'à, je sais plus à quelle année plus tard, ils ont décidé de sortir la version féminine qui disait la même chose.
Et
c'est là que la lignée Masters of the Universe a planté dans le mur.
Ah oui, mais il y a eu un film, ils ont voulu faire un reboot, ça a pas marché. Mais tu sais que, bon, Netflix récemment, ils ont refait un remake de She-Ra, ça a pogné quand même. Fait qu'ils sont allés voir un réalisateur qui est un peu underground, mais que tu connais, Kevin Smith.
Oui.
Qui a produit Mallrat, qui a produit Clerks, qui a produit tous les films de Jay and Silent Bob.
Excellent film pour ceux qui les ont pas vus. Je vous recommande vraiment d'aller les voir. C'est humoristique. Puis Jay and Silent Bob, au départ, c'était même pas censé être des personnages principaux, mais ils ont tellement eu un rôle agréable à regarder dans les deux premiers films qui ont sorti, qu'ils ont carrément eu leur film plus tard, éventuellement. Ouais. Puis ils apparaissent dans un paquet de films qui... ils ont même pas de raison d'être.
Ça, bref, dans l'univers de Kevin Smith,
ouais.
Qui est aussi un grand fan de bande dessinée, qui a écrit des bandes dessinées, qui fait de la réalisation.
Ouais.
Bref, Netflix est allé voir, ils ont décidé de faire une fin à la série Master of the Universe, l'original de 1980.
Le dessin animé, là?
Ouais, ouais.
Oh boy, ça promet. Est-ce qu'ils gardent les mêmes couleurs puis le même...
Je sais pas, parce que je pense qu'ils sont en train de produire l'animation. Sauf ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'ils vont faire le dessin animé, c'est le casting qu'ils sont allés chercher pour faire les voix.
Tu es en train de me dire qu'ils ont été chercher des gros noms pour pouvoir mettre sur le dessin animé.
Je te dirais que c'est censé être 8 ou 9 épisodes censés raconter la fin de la série, si on veut, parce qu'elle n'a jamais eu de fin.
Non, elle n'a jamais eu de fin, puis peut-être que ça redonnerait une nouvelle naissance à lignée de jouets qu'elle avait.
Et ils ont annoncé ça récemment, au début de la semaine dernière, sur différents réseaux comme Twitter. Le casting, ça fait à peu près 2 pages, 2 pages et demie, là, tu sais. Puis c'est vraiment tous les personnages qui ont sorti.
OK, ils font vraiment...
Ouais, c'est la bataille finale. Si vous êtes collectionneur, vous avez toutes les figurines de He-Man, vous allez toutes les voir dedans. Toutes.
Ça va être le temps d'aller regarder ça. Ressortir les vieilles cassettes VHS du grenier pour essayer de voir si tu peux voir les anciens épisodes.
Si ton VHS ou ton bêta fonctionne encore, c'est ceux-là qu'on craquait ou qu'il fallait souffler dedans pour les faire fonctionner.
Ouais, il y en avait qu'on soufflait dedans, mais d'habitude, non. Hein? Oui, les VHS, on pouvait souffler à l'intérieur en levant les petits panneaux. Oh, calice. Eh, ça fait longtemps,
toi,
ça.
Toi, tu levais le petit panneau pour souffler dans la fente. C'est ça que tu me dis. Et si vous prenez le podcast à ce moment-là, vous allez vous poser des questions de quoi qu'on parle. Mais sinon, un gros casting. J'ai quelques noms, ceux qui m'ont dit quelque chose plus ou moins. Je vais t'en faire part. Alors, on va y aller. Les alliés de chaque bord. Parce qu'évidemment, t'avais Skeletor qui avait sa gang, puis l'autre avait sa gang. Là. Donc,
j'aime comment Skeletor est rendu plus important que l'autre qui avait sa gang.
Ben là, tout le monde écoutait ça pour Skeletor, voyons. T'avais-tu écouté le spécial de Noël où Skeletor sauvait Noël?
Non.
Ils l'ont fait. Ah. T'avais deux enfants humains qui se ramassaient dans leur monde.
Oh, c'est cute! Oh, ça n'a pas d'allure.
C'était censé être un spécial mix She-Ra He-Man, fait que.
Ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils refassent un autre épisode équivalent probablement pour Pauk dans les 8 qui vont sortir.
Ouais, ben, regarde, dis-toi une chose. Si George Lucas rachète la licence Star Wars et décide de faire un spécial Pauk de Star Wars pour aller avec son spécial de Noël, peut-être qu'ils vont en faire pour eux autres. Puis maintenant que je viens de te mettre une image bizarre en tête parce que t'as probablement déjà vu des extraits du fameux Star Wars Noël.
Non, ça je l'ai pas vu encore. Je vais aller chercher ça tantôt.
Je te suggère d'être à jeun parce que sinon tu vas dire, crie donc sur ta bière, c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Ils ont vraiment fait ça.
Ok.
Ça, juste pour te donner une idée, là, pour finir la parenthèse, George Lucas renie le spécial de Noël qu'il a fait. Ça a l'air que c'était censé être un spécial de Noël qui passait à la TV, puis il l'a renié. Peut-être que si on fait une émission dans le temps de Noël, on en parlera.
Ouais, ça serait une bonne idée.
Je te le ferai écouter au complet, puis après ça, tu nous diras tout ce que tu penses de ça. Mais revenons à notre sujet. Donc, dans le rôle de Merman, une espèce d'homme poisson verdâtre,
oui.
Kevin Conroy.
Je me rappelle de lui.
Kevin Conroy va prêter sa voix, c'est-à-dire le gars qui fait la voix de Batman depuis des années, que vous avez joué au Batman, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, en version originale anglaise, vous allez entendre sa voix.
Ça va
si
faire
vous, avez, vous êtes de notre âge, vous avez peut-être tombé sur la vieille série des années 90 en dessin animé de Batman, c'est lui aussi qui faisait la voix.
Ça va nous faire un homme poisson assez charismatique.
Ouais, très, très mystérieux. Ensuite, toujours dans la lignée des voix un peu connues, Kevin Michael Richardson, qui va faire Beastman, l'autre sidekick de Skeletor, espèce de grosse brute qui ressemblait comme un genre d'orang-outan jaune-orange.
Ah oui, oui, je commence à me rappeler de lui.
Pour Richardson, il a prêté sa voix au Joker, entre autres, dans une dessin animé de Batman plus récente. Je pense que c'était dans les années 2000.
Donc, ils ont-tu été chercher le casting de Batman?
Non, pas juste ça. Ensuite, t'as Jason Mayer, M-E-W-E-S, qui joue Jay dans les films de Jay and Silent Bob.
OK.
Parce qu'évidemment, Kevin Smith ne peut pas se séparer de son chummy.
Non, mais c'est normal.
Fait qu'il va jouer...
Ils font tout ensemble.
Il va jouer Stinker, l'espèce de moufette.
Oh boy.
La moufette que, quand t'achetais la figurine, appuyait l'eau de Javel.
Pourquoi j'ai l'impression que c'est l'acteur qui a choisi ce personnage-là?
Je pense que moi aussi. Ensuite, là, on s'en va du côté de personnes un petit peu plus connues. Si je te dis que celle qui va jouer la mère de Miss Clark, ça va être Alicia Silverstone, la fille qui a joué dans Clueless, mais qui faisait aussi Batgirl dans Batman et Robin, le film avec Arnold Schwarzenegger. Là.
Oh, ça remonte à longtemps, ça.
T'as Liam Cunningham, qui a joué dans Game of Thrones récemment, Davos Mervaux, qui va jouer Man on Arm, espèce de gars moustachu qui suivait tout le temps He-Man.
C'est un bon acteur, ça. Il joue dans plusieurs affaires, lui.
Ouais, j'ai cherché qu'il a fait pas mal de gros films.
Je pense qu'il fait partie du casting de Star Citizen.
Je vais tout de suite te dire c'est qui va jouer He-Man, parce que moi, personnellement, si j'aurais pas su que Chris Wood était l'acteur qui jouait dans Supergirl Mon-El, j'aurais pas pu savoir c'était lui. C'est pour te dire, mais c'est lui qui va jouer He-Man. Par contre, ceux qui m'intéressent le plus, parce que ça va probablement te dire quelque chose, c'est assez surprenant qu'ils sont allés les chercher pour jouer des rôles dans ce dessin animé-là, on a Sarah Michelle Gellar qui va jouer Teela. Pour ceux qui sont de notre génération, Sarah Michelle Gellar, c'est Buffy. Elle a fait quelques films, elle a joué entre autres dans Rage meurtrière 1. Elle fait encore des apparitions à droite à gauche, mais elle est plus connue pour son rôle dans Buffy. Pour faire face à Teela, évidemment, il faut Evil-Lyn, la fille maléfique qui avait comme la peau jaunâtre. C'est Lena Headey qui joue Cersei Lannister dans Game of Thrones qui va la jouer.
Oh, ça va être intéressant à voir, ça.
Pour le dernier, pour celui qui va jouer Skeletor, je te donne trois indices. Du plus vague au moins vague, essaie de guesser, OK?
OK. Mais tu sais que je suis pas bon là-dedans.
Ah, tu devrais le trouver, lui. Premièrement, il a déjà fait la voix du Joker. Puis beaucoup pensent que c'est peut-être le meilleur Joker au monde.
OK. Comment il s'appelle le gars qui joue Luke Skywalker?
Tu l'as trouvé tout de suite.
Hey, c'est quoi son nom?
Mark Hamill.
Mark Hamill.
C'est là tout de suite.
Wow! Ils veulent vraiment lui pour jouer le méchant?
Oui!
Wow!
Hey, il a joué le Joker. Il a joué ensuite de ça, ben... Luke Skywalker, puis là, il va jouer Skeletor.
Oui, mais lui, il est très bon pour faire du voice-over, parce qu'une affaire que toi, t'es probablement pas au courant, mais dans le domaine du jeu vidéo...
Wing Commander 3.
Toutes les Wing Commander qui ont du voice-over, il y a
c'était
un personnage
c'était ça, mon deuxième
dedans.
Indice. Mon premier, c'était Luke Skywalker. Si tu l'aurais pas trouvé à ce moment-là, j'aurais fait « OK ».
Dans beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, ça a l'air qu'il fait des apparitions avec sa voix. Je me rappelle pas lesquels, mais je sais que j'ai vu qu'il était dans ce domaine-là pendant
un moment. Je te dirais que depuis quelques années, il en fait pas mal aussi. Il a refait pas mal de réapparitions au cinéma par télévision.
Mais il fait une énorme réapparition dans un jeu vidéo qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir bientôt. Celui que je parle à chaque fois que je vais ramener un gros jeu, Star Citizen.
Mark Hamill
va jouer un rôle clé dedans. Parce que dans tous les Wing Commander, il y avait un rôle quand même important dedans. Puis Chris Roberts, qui est le développeur de Star Citizen, aimait beaucoup travailler avec lui. Fait qu'il il a été le rechercher, puis il a encore donné un gros rôle.
Fait que ça s'en vient bientôt sur Netflix. Les maîtres de l'univers remasterés qui vont s'appeler Master of the Universe Revelation. Tant qu'à être sur Netflix, autre nouvelle intéressante qui s'en vient très 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 bientôt, mais vraiment très 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 bientôt, c'est-à-dire le 5 mars prochain. La nouvelle est sortie le 14 février, fait qu'il y en a qui étaient probablement chez eux en train de checker sur Internet les nouvelles au moment que leur blonde est en train de se préparer un petit décolleté pour une nuit romantique. Alors, ça arrive dans la porte, elle dit «
Chérie, tu me désires? »
Puis il a fait
« Attends une seconde, là. Non, faut que j'écoute un trailer avant. »
Je pense pas.
Alors, Castlevania saison 3 arrive le 5 mars. Ça fait un an et demi que la deuxième saison était sortie. Tout le monde l'attendait avec impatience. Puis, le 1er janvier, les studios ont souhaité bonne année à tout le monde en écrivant « Bonne année, ma petite chauve-souris ». 3-4 semaines après, ils ont sorti un poster. Puis maintenant, on a le trailer. Fait que si vous allez sur YouTube ou sur votre site habituel de visionnement de nouvelles vidéos, ben vous pourrez probablement tomber sur le trailer. Je vous conseille d'aller le voir. Ça risque de vous faire baver comme un Saint-Bernard devant un T-Bone.
Ouais, c'est pas plus dit.
Tu l'avais vu, qu'est-ce que t'as pensé du trailer?
Moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Ça donne l'impression qu'il va avoir beaucoup plus d'action que dans la première saison. La deuxième, je l'ai pas écouté au complet. Je pense que j'ai peut-être écouté un ou deux épisodes, c'est tout. Fait que, à mon avis, il va avoir beaucoup de combats, beaucoup d'action, beaucoup de règlements de compte.
Effectivement. Ensuite de ça, on va sauter de Netflix à...
De Batman.
parce que ça a été quand même assez chaud, hein, la fin de semaine de la Saint-Valentin. En plus de la nouvelle de Castlevania, ben le réalisateur Matt Reeves, qui est en train de réaliser
The Batman,
a mis en ligne le test de costume de Robert Pattinson en Batman, avec de la musique qui serait très probablement faite par Michael Giacchino, J-I-A-C-C-H-I-O-N-O. Giacchino.
Ok. En autant que notre Batman glope au soleil, ça devrait être correct.
Juste pour te dire, l'auteur de la musique, il a fait la musique pour Mission Impossible 3, Mission Impossible 4, les films de Star Trek les plus récents, Ratatouille, The Incredible, Up, Doctor Strange, les deux plus récents films de Spider-Man, Jurassic World, Rogue One, Core 2, les films de Planète de Singe. Il a fait la musique de la série Lost, il a fait Alias, puis il a même fait la musique de Fringe, la série TV de science-fiction policière. Je t'allais montrer tantôt le teaser en question. Qu'est-ce que tu penses du costume?
Ah, le costume, il est vraiment intéressant. Il a de l'air d'un gros blindage mis par-dessus un petit garçon. Le seul défaut que j'ai avec, c'est peut-être le bout de petit garçon. Il a de l'air un peu trop maigrichon, mais en fait, on voit rien que son menton. C'est peut-être lui qui a une face un peu en V, là, je sais pas. Mais ça reste à voir. Vu de côté, ça a de l'air pas trop pire. Il y a des chances de pouvoir s'en sortir. C'est Mick qui enlève son masque, on va voir. J'espère que le gars, il a vieilli un peu, parce que s'il a la même face qu'il avait dans Twilight, il va manquer de, comment je dirais, pas de charisme. Ça va être dur de le prendre au sérieux.
Expression faciale.
Non, c'est juste qu'il va avoir trop une face de kid pour le prendre au sérieux, ouais, dans un Batman. On aurait l'impression de voir, ouais, les Teen Titans.
Question de même, toi, t'avais écouté Daredevil?
Oui, j'ai écouté Daredevil. Je me suis rendu quand même assez loin.
Il y en a beaucoup qui disent, après avoir vu justement le teaser du costume de Batman, que ça ressemble un peu au costume de Daredevil pour le masque.
Pour le masque? Non, j'ai pas trouvé, parce qu'il faudrait que je le regarde à nouveau, mais il me semble que j'ai trouvé le masque de Batman avec suffisamment d'arêtes vives dessus pour qu'il n'y ait pas assez de ressemblance avec Daredevil pour que je fasse le lien direct. Parce que Daredevil, c'est vraiment un masque organique qui suit les courbes de la tête et tout, alors que Batman, la plupart du temps, quand t'arrives au niveau des joues puis en dessous des yeux, il y a comme plus des arêtes vives pour faire un découpage du visage. Puis il me semble qu'il les avait dans le trailer, celui-là.
OK.
Faudrait vérifier,
mais il y avait beaucoup de remarques de tout ça par les premiers qui ont vu la vidéo.
Alors, c'est très possible.
Aussi, ils ont révélé récemment que l'histoire va être un peu un deuxième année, le Batman en question.
Un deuxième année.
D'habitude, on a soit un Batman qui est avec son origine, puis tout le kit, donc Year One, première année.
OK.
Ou un Batman hyper expérimenté, que c'est pas sa première année, qui se bat contre des vilains.
OK, fait qu'on n'aura pas la découverte de comment il a décidé de devenir Batman.
Non, c'est plus, peut-être on va avoir un petit flashback de 2-3 secondes, là, mais c'est plus, il va avoir déjà commencé à combattre le crime, mais il est pas encore le méga gros détective hyper expérimenté de la fin de sa carrière.
C'est bon, mais ça va nous donner de quoi, ouais, à explorer, puis ça va leur donner suffisamment d'ouverture pour décider de faire un prélude s'ils en ont envie.
Puis j'ai même dire que ça se peut que si le film fonctionne, ça va être une trilogie.
Oh ouais, ça pourrait être assez intéressant, ça, parce que la plupart des Batman ont presque tous sorti par trois.
Ben, il y a eu la trilogie de Christopher Nolan, ceux de Tim Burton, c'était une quatre, mais là-dessus, le troisième, Tim Burton était un directeur exécutif, puis dans les quatre, il a juste dit
il était rendu directeur exécuté.
Ouais, il s'est exécuté par lui-même. Et dernière nouvelle, celle-là, elle va être un petit peu plus longue, mais elle va être intéressante. On parle souvent, depuis nos premiers podcasts de jeux vidéo,
oui,
de films,
oui,
un peu de séries TV, mais il y a un sujet qu'on est fan, mais qu'on n'a pas vraiment parlé encore, l'animation japonaise.
Oui, en effet. T'as tout quoi là-dessus?
Ouais, j'en ai une bonne.
Moi, j'attends pour en accumuler un peu plus avant de commencer, ouais, dans cette direction-là, mais à un moment donné...
Quand t'apprends une nouvelle, si tu veux la, oui, partager... Hein,
c'est clair, puis c'est plus toi qui fais les, ouais, nouvelles que moi.
Yeah. Rurouni Kenshin, alias Kenshin le Vagabond, ça dit quelque chose?
Oui, j'ai vu la série au complet.
Ouais, la série, tu sais que c'est une adaptation du manga, mais qu'ils, oui, ont jamais adapté les derniers chapitres du manga.
J'en ai quelques-uns des mangas de ça chez nous, originaux.
Ah oui?
Ouais, je pourrais pas te dire lesquels, là.
Mais c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment, ça fait des années qu'ils ont jamais adapté le dernier chapitre du manga, qui s'appelle le...
Si je me trompe pas, on est loin après Shishio-sama dans ce moment-là.
Ben en fait, la deuxième partie du manga, c'est Shishio. La troisième partie, c'est la partie qui a jamais été exploitée. Et qui...
Pendant que tu cherches, je vais expliquer Kenshin, la série Kenshin le Vagabond.
Ah, dans j'ai
le
fond. Trouvé.
C'est un samouraï à l'époque où l'ère Edo prend fin, si je me trompe pas, parce que les Occidentaux arrivent avec les armes à feu.
Ouais.
Kenshin fait partie ça, des ça... derniers samouraïs qui fait... sont devenus plus ou moins Ronin après une grosse guerre. Et
on tombe dans l'ère Meijin.
Et pendant cette transition-là vers l'ère Meijin, justement,
ouais.
Kenshin vient de finir un gros combat qui opposait l'armée d'un roi avec l'armée de quelqu'un d'autre qui voulait devenir roi. Je me rappelle plus de quel côté
c'était,
qu'il était.
C'était plus des questions diplomatiques entre des différentes familles.
Oui, c'est ça. Mais c'était quand même de la politique, là.
C'est ça. On sait Ronin parce qu'il n'y avait plus de clan en tant que...
Ouais, c'est ça. Sauf que la guerre dans laquelle il a combattu, qui a pris fin, il y a eu tellement de morts, autant d'un côté que de l'autre, que quand le combat était fini, en voyant la quantité de cadavres autour de lui, il s'est dit, ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi de protéger le pays si le pays, c'est des cadavres? Fait que là, il s'est décidé qu'il réutilisait plus jamais son sabre pour tuer,
mais pour défendre,
défendre ceux qui aiment,
protéger.
Puis protéger. Alors, il s'est fait faire un katana avec la lame inversée pour frapper avec le côté blunt, le côté
non
coupant du sabre. Toute l'histoire avance autour du fait qu'il était le meilleur assassin qui existait, mais il ne veut plus tuer. Alors, au fur et à mesure de ses aventures, il rencontre du monde qui décide de protéger et de fil en aiguille. Allez voir l'histoire, ça vaut vraiment la peine.
Ouais, il croise une fille qui s'appelle Kaoru, un jeune homme qui va devenir le disciple de Kaoru et de lui-même, Yakiko. Il va croiser un bum bagarreur de rue, Sanosuke, un gang d'assassins ou d'espions, les Oniwaban, puis à un moment donné, il va se ramasser contre Shishio. Donc ça, c'est la partie qu'on connaît de l'histoire.
Oui.
Puis, ben, t'as sauté la partie la plus importante, c'est qu'ils ont fait aussi, en plus de la série TV, des OVA.
Oui, je voulais pas la sauter, je voulais encourager le monde à aller se renseigner puis aller les voir.
Disons que les OVA touchent la jeunesse de Kenshin et c'est considéré meilleur que le dessin animé.
Oui, oui.
Parce que le dessin animé, on s'entend, il y a de l'humour.
Oui, il y en a beaucoup, mais... Il y a certaines fois l'humour qui est quand même bonne, mais des fois c'est de l'humour assez niaiseux.
Arrête, exemple.
Oui.
Ça pour dire que le dernier acte du manga a jamais été adapté dans n'importe quel média jusqu'à présent.
Alors, fallait avoir le livre pour pouvoir savoir ce qui se passait.
C'est la période, comme je disais tantôt, l'arc Jinshu, avec le personnage de Inishi Yukishiro, que les fans du manga attendent avec impatience depuis des années, qui est censé être le frère d'un personnage que Kenshin a tué dans sa jeunesse par erreur et qui veut se venger.
Okay.
Et qui va carrément mettre en danger les proches de Kenshin. Puis c'est vraiment le dernier acte du manga qui dure plusieurs albums et ça n'avait jamais été adapté. Fort récemment, tu sais qu'ils ont commencé à les adapter avec des vrais acteurs. La série...
Oui, ils ont commencé à faire quelques films.
Ils en ont fait trois jusqu'à présent. Le premier qui couvre le premier acte. Le deuxième et le troisième qui couvre la période Shishio avec l'acte de Kyoto.
Oui.
Ben, c'est ça. Il reste le dernier acte à produire. Fait qu'ils vont carrément aller piger dans le manga. Et ça sort cette année. Le 3 juillet 2020.
Oh, ça arrive quand même vite,
ouais.
Ça, là.
Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en parler. Puis pire, ils sont dit, tant qu'à sortir la fin, on va aussi sortir ce qui avait juste été produit en OVA jusqu'à présent. Le début, qui, elle, va sortir le 7 août 2020. Donc, la fin va s'appeler The Last Chapter et l'autre, The Beginning Chapter, évidemment.
OK, ils sont pas trop forcés pour les noms?
Non, effectivement, mais ça précise bien que...
Qu'est-ce qu'ils veulent parler?
Ouais. Puis toujours dans la catégorie Kenshin, tu savais sûrement pas, mais l'auteur Nobuhiro Yatsuki avait arrêté de produire le manga il y a 20 ans de ça. Il a décidé de recommencer le manga, fait qu'il va faire un nouvel acte.
Recommencer dans le sens continuer ou refaire un début?
Continuer, il va continuer après 20 ans.
Les films lui ont donné le goût de revenir en arrière et de refaire
soit ça. Ou une petite affaire qui est arrivée dans sa vie personnelle. Il s'est fait arrêter récemment au Japon pour avoir eu du matériel compromettant.
OK, de quelle nature?
Pornographique, illégal.
OK.
On ne rentre pas dans les détails, mais vous irez checker sur Internet, vous allez comprendre ce qu'on veut dire.
Un autre cochon.
Ouais, un autre cochon. Puis ça en est sorti. Il a payé une amende salaire, puis les autres, ça, ils ont fait OK. Fait que probablement pour se relaver les mains, il a dit bon, ben, j'ai fait une chose qui a pogné il y a plusieurs années, je vais essayer de me laver les mains en essayant de faire une continuité de ça. Ou peut-être qu'il avait déjà envie de faire ça, puis c'est arrivé au travers, puis donc les cours sont Dark Side. À savoir si vous allez être intéressé de voir le manga.
Ça reste à voir.
Ou de boycotter la série maintenant que vous savez ça, c'est à votre choix.
C'est la news!
Non, ben moi, je vais rester un petit peu dans les news. J'avais entendu parler d'un truc aux nouvelles cette semaine, puis je voulais t'en parler.
Ouais,
puis ensuite, je vais revenir plus jeux vidéo, parce que je voulais revenir sur Star Citizen tantôt. Aux nouvelles cette semaine, j'ai appris que Guy Nantel, l'humoriste, va se proposer comme chef du PQ. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Ben, s'il est accepté puis devient chef du PQ puis il se ramasse à la tête du pays, j'espère qu'il va aller dans les rues pour faire des podcasts pour décider ses nouvelles politiques.
va pas trop vite, là. Il va commencer par le PQ. Il a pas dit qu'il voulait s'en aller premier ministre, là, mais...
Il a-tu dit papier PQ ou PQ?
Non, il veut vraiment s'en aller au PQ.
Boy, ils sont désespérés, eux autres, hein?
Ben, pas nécessairement, écoute...
Non, mais je veux dire, ils ont changé combien de chefs, eux autres, là?
Je sais pas,
je pense qu'à chaque élection, ils changent de chef, puis entre-temps, ils changent de chef aussi.
Moi, il y a une affaire que j'espère qu'il va être bon dans tout ça, si c'est lui qui ressort de là. Il dit qu'il veut pas être élu pour le fait que c'est un humoriste. Sauf que moi, je m'attends pas à ce qu'elle a là pour faire des jokes.
Non.
Puis je m'attends pas à ce que sa candidature soit un gros gag non plus. Non. Mais le fait que c'est un humoriste, puis que la plupart du temps, les humoristes, pour pouvoir provoquer le rire, vont soit aller dans des situations qui choquent, puis sortir ce qui est choquant pour l'exposer, pour voir à quel point c'est extrême ou que c'est choquant, puis que ça devrait pas être comme ça. Peut-être que lui va oser aller plus loin, puis aller exposer les trucs choquants dans la politique pour réussir à pousser ses idées. Le seul truc, c'est que là, j'ai appris c'est quoi un peu les idées qu'il veut pousser.
Une chose est ça, c'est que vu qu'il est humoriste, il a pas sa langue dans sa poche. Ils vont peut-être réussir à faire plus de codes d'écoute du poste de parlement là, sur le cadre. Parce que les gens vont aller voir la période des questions.
Par contre, ça a l'air qu'il veut se concentrer sur l'environnement, pas de trouble là-dedans,
ouais. Et
la laïcité.
Nantel au pouvoir, puis probablement à l'opposition, qui c'est qu'on met? Mario Mazza?
Ça ferait un drôle de défi, mais non, moi j'ai hâte de voir. Si c'est lui qui va là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
C'est qu'on pourrait mettre.
À l'opposition?
Tant qu'à être dans Maurice.
Ah non, moi je cherche pas là-dedans. Là. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce que ça pouvait donner. Là, mais,
de toute façon, des humoristes, c'est mieux que des clowns, hein? On n'aimera pas un pays, mais on en a un en tête, hein?
OK. Je fais mon micro-rappel sur Star Citizen tantôt, parce que t'as nommé un nom, puis j'étais pas sûr, fait que j'ai été vérifié pour être certain.
Ouais.
Et en effet, tantôt t'as mentionné Liam Cunningham,
ouais,
qui allait être dans une nouvelle série de...
Une suite à Master of the Universe.
Une suite à Master of the Universe, et Liam Cunningham fait partie du casting de Squadron 42. Excusez, I was fan de Star Citizen, quand je me mélange entre les deux, mais pour moi, ça fait partie les deux du même projet. Juste pour donner envie aux amateurs de jeux vidéo et de grands noms de casting pour aller voir un peu de quoi ça a l'air, je vais vous donner quelques noms de référence pour ceux qui ont été sélectionnés pour faire partie du casting de Squadron 42.
Oh!
Henry Cavill.
Witcher, Superman.
Oui. Lui, je l'aurais pas reconnu direct de même. Là, si tu l'aurais pas dit.
Gary Oldman.
Ben oui. Je serais pas capable de dire la quantité de films dans lesquels il a joué, mais je peux dire qu'il est vraiment bon.
Professionnel.
Oui. Oui, il a joué dans plusieurs Batman. Il faisait Gordon.
Le cinquième élément.
Oui. Comment qu'elle s'appelle la fille dans Scully?
Gillian Anderson.
Gillian Anderson, elle va jouer dans ça.
Qui a joué aussi dans Hannibal récemment.
Mark Strong.
Qu'on a vu récemment dans Shazam.
Oui. Il me semble que je l'ai vu dans un autre film récemment.
Il a aussi joué dans Sherlock Holmes.
Liam Cunningham, qu'on a vu un peu dans Game of Thrones, que tu disais tantôt. Ben Mendelsohn. Je me rappelle pas dans quoi je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps.
John
Rhys Davies.
Ça me dit quelque chose.
Je peux tout de suite te dire dans quel film que je l'ai vu le plus récemment. Tu te rappelles qu'il est sorti Indiana Jones au cinéma il y a quelques années?
Ouais.
C'était le quatrième. Dans les trois premiers, je pense que c'est dans le deuxième puis dans le troisième, il joue le rôle d'un russe qui sert d'informateur. J'adore ce gars-là. Je connais pas tous les films dans lesquels il joue. Je sais qu'il a déjà joué dans un ou deux James Bond.
Pour une fois, pour une
parmi
fois,
les vieux.
Pour une fois, c'est toi qui m'en le sort, puis quand je fais oui. Ah, le dernier, on en a parlé l'autre fois. Andy Serkis.
Puis, là-dessus,
Andy Serkis, on en a parlé. Il va jouer Alfred. Il a fait Gollum et compagnie, là.
Hey, je suis déçu, mais ma liste est très loin d'être complète.
Quoi, Squadron 42?
Et Squadron 42, c'est la section du jeu de Star Citizen qui s'adresse au mode campagne.
OK.
Il va y avoir une campagne avec un scénario élaboré, puis beaucoup de NPC, de personnages non-joueurs en français, qui vont te donner des missions, qui vont essayer de devenir amis avec toi, etc. Ouais. Et ils veulent vraiment rentrer ça dans le détail. Ils veulent vraiment que tu puisses interagir avec les personnages, créer des liaisons amicales, peut-être même amoureuses. Je pense qu'ils veulent même implémenter une option pour pouvoir parler avec les personnages par voix.
Hein, cool.
Ça va être intéressant.
Fait que si j'ai bien compris, on va pouvoir croiser Superman, Gordon, Scully, le méchant dans Shazam, puis aussi Gollum.
Et l'autre acteur. Luke Skywalker. L'avais dit tantôt.
Ouais, Luke Skywalker.
Puis je sais qu'il y en a plein d'autres. Je sais que Chris Roberts va jouer un rôle dans son propre jeu.
Ouais.
Je sais que sa femme va aussi jouer dedans.
Ah, ça arrive souvent que des réalisateurs ou des producteurs qui ont de la famille qui est acteur vont essayer de les placer, même si c'est pour un petit rôle. Juste, on parlait tantôt de Kevin Smith. Sa fille, elle joue dans plusieurs de ses projets.
Oui, en effet. Mais celui-là, il va avoir vraiment un casting incroyable. J'arrive pas à retrouver toutes les autres. Même sur le site officiel, j'ai pas été capable de retrouver. J'ai pas beaucoup de temps à regarder.
Donc, les prochaines fois, vous aurez la suite de cette nouvelle incroyable.
Star Citizen.
Ça, je m'y attends pas beaucoup parce que ceux qui s'y intéressent le moindrement vont trouver énormément plus d'informations tout simplement en allant sur le site ou en allant sur YouTube écouter n'importe quel fan fini de Star Citizen qui veut faire ses propres résumés, commentaires, élaborations sur le développement et tout ça. J'avais envie de faire un petit bloc ce soir sur des jeux de société, j'allais dire jeux vidéo, j'en fais trop, sur des jeux de société, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de jeux de société dans la quarantaine qui seraient peut-être intéressés à en découvrir d'autres ou à éviter d'en découvrir qui sont peut-être moins intéressants.
Surtout que de nos jours, la majorité des jeux, des fois, ça peut varier entre 40 aller jusqu'à 100-150$ des fois.
Oui, très facilement. Alors,
et encore là, des fois, ben ça, c'est sans compter les extensions que tu peux racheter ensuite. Fait que ça fait un méchant mouton juste pour jouer une game ou deux des fois. Et t'as prêt à dire, finalement, j'aurais pas dû acheter ça.
Ouais, en effet. Le premier jeu que je vais parler, c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années. À l'époque où le jeu World of Warcraft venait de sortir, ça me tentait de jouer, mais je savais que mon ordi serait pas assez fort. En plus, ça aurait été le genre de jeu qui t'aurait demandé d'avoir un acompte à payer à chaque mois, puis ça me tentait pas de débourser là-dessus. Et c'est le genre de jeu qui est un massively multiplayer online, MMORPG, où tu dois investir énormément de temps pour être capable d'avancer. Alors, je me suis plutôt penché sur le jeu de société, World of Warcraft, le jeu de plateau, qui est sorti quelques années après. C'est une adaptation du jeu, mais l'adaptation a trop voulu se concentrer. Ben ça, c'est mon avis personnel, parce que je l'ai essayé. Avec Mark, d'ailleurs.
Oui, ça fait longtemps, je me rappelle même plus c'était comment qu'on jouait.
Ben, c'est parce que c'était trop compliqué, que tu t'en rappelles plus, c'est aussi simple que ça. Ce que je reproche au jeu, c'est qu'ils ont essayé de trop le mettre conforme aux jeux vidéo. Alors, pour vous donner une explication grossière et rapide du jeu, il y a un plateau sur lequel on doit générer des quêtes, on doit générer des ennemis, on doit générer des événements, on doit générer des conséquences aux événements, et on doit contrôler un certain nombre de héros qui, eux autres, montent de niveau, développe des talents pour mieux tuer les adversaires que sur le plateau. Et tout ça mis ensemble, c'est incroyable le temps que ça prend placer le plateau avec toutes les cartes d'événements, d'items, de talents.
Je m'en rappelle, c'est la fois que quand je suis sorti de chez toi, j'avais mon front page et peinte de lait. Avez-vous vu cet homme? On le recherche depuis 3 jours.
Alors, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. L'éditeur, c'est Fantasy Flight Games. C'est une adaptation de World of Warcraft, comme je disais tantôt. Concepteur Eric M. Lang et Christian T. Peterson. Ne pas confondre avec Eric Lang, je crois que c'est ça le nom hein, de Pen of Chaos?
c'est Johnny Lang.
C'est Johnny Lang, OK.
Johnny Lang.
Mais en tout cas, c'est un jeu de plateau, il a de l'air bien intéressant, mais honnêtement, le temps que ça prend tout setter, tout apprendre les règles, quasiment aussi bien de starter une game de poker ou quelque chose, ça va aller plus vite, tu vas être direct dans le jeu. La première tentative d'apprendre le jeu, ça a pris 3 heures, placer le plateau, les cartes où est-ce qu'elle est, puis essayer de savoir pourquoi on mettait une carte à une autre place. Ensuite, on a commencé à jouer en relisant les règles. 2 heures plus tard, on avait fait genre 3 ou 4 tours. C'est lourd, c'est incroyable. Le jeu a énormément de potentiel, pareil. Je veux dire, c'est le fun comment tes personnages peuvent gagner de l'expérience, monter de niveau, devenir plus fort. Tu dois essayer d'aller buter le grand méchant avant un certain nombre de tours, sinon c'est lui qui réussit son objectif. Mais le placement de plateau, apprendre comment ça marche, trop lourd. Je l'ai essayé, je pense, 3 fois, puis il est resté dans mon garde-robe depuis, puis au prix que je l'ai payé, j'ai trouvé que ça valait pas la peine.
La seule utilité qu'il y a présentement, c'est ça donne des dés supplémentaires quand t'as besoin de dés pour faire des jeux de société, et des figurines pour quand tu fais du Donjon et Dragon.
Exactement. Les figurines sont très intéressantes. Le système pour monter de niveau les personnages pourrait être agréable aussi pour adapter vers un autre jeu de société qu'on pourrait faire qui serait plus simple s'il y avait moins d'événements à gérer à chaque fois qu'on passe un tour, mais j'ai trouvé que c'était trop. Alors ça, c'était la petite parenthèse pour le jeu qui, moi, m'a déçu. Allez plutôt voir, il y a sûrement des vidéos sur YouTube sur comment jouer. Peut-être que ça s'apprend mieux en regardant une vidéo, mais moi j'ai trouvé que c'était trop long.
Question de même, c'est-tu le genre de jeu qui t'a coûté une fortune?
Oui, ce jeu-là, il était 100$ à l'achat cette année-là, mal investi. Ensuite, je vous parle d'un autre jeu que j'ai acheté un petit peu avant d'avoir acheté World of Warcraft, mais c'est un jeu que j'aime bien ressortir souvent. On parlait un peu de jeu de rôle tantôt. Ça, c'est un jeu, il y a eu plus qu'une édition, ils ont sûrement fait des corrections au jeu.
Il y a beaucoup d'extensions, hein?
Oui, en effet. Je connais pas beaucoup les extensions, fait que je vais vous parler plus du jeu de base, mais c'est un jeu édité par Atlas Games, conçu par Baker. Parmi les extensions, je vais nommer le jeu d'abord. Ça s'appelle Gloom.
G-L-O-O-M.
Gloom, en gros, c'est 4 familles qui habitent dans le même village et qui ont une façon de penser très différente de la nôtre. Leur façon de voir la vie, c'est plus tu as de malheur dans la vie, plus l'après-vie va être agréable.
Bref, un peu la famille Adam.
Ça ressemble à peu près à ça, mais c'est pas nécessairement du masochisme. C'est pas parce qu'ils aiment avoir mal, c'est plus qui se disent que l'après-vie, elle, ça dure pour tout le temps. Fait que plus tu vas avoir de malheur, plus tu as souffert dans ta vie, plus tu vas avoir été préparé à avoir une après-vie agréable et heureuse.
Donc, eux, marcher sur des Legos.
Se faire arracher la jambe par un chien enragé, ça, c'est un événement pratiquement heureux pour eux autres parce que le reste de ta vie, t'es malheureux.
Pourquoi avec tu es un gros man enfant, tu viens de te faire frapper en train. Est-ce que c'est le bonheur?
Alors, ouais, mais pour eux, si ça c'est le bonheur est censé pas être du bonheur, donc c'est comme un paradoxe.
Un peu, oui. Puis
c'est, j'ai mal à la tête.
C'est ce qui fait que le jeu peut être assez agréable à jouer, le principe étant d'essayer de se mettre dans la place du personnage à qui les événements tragiques ou agréables, parce qu'il y en a aussi, arrivent, et essayer d'expliquer comment eux se sentent. Ça vous fait faire un peu de roleplay pour les amateurs de roleplay,
chose, par contre, c'est
et ça peut être excessivement comique.
La seule chose, c'est faut pas que tu joues avec quelqu'un de dépressif.
Je sais pas. Ça dépend de chacun. Pour décrire un peu comment le jeu se joue, c'est des cartes qui sont transparentes avec certaines zones ombragées. Les zones ombragées, c'est là où il y a des informations pertinentes qui vont dire qui est le personnage et est-ce que son karma est dans le positif ou dans le négatif, et qui décrit un peu l'événement qui est arrivé pour causer sa peine ou son bonheur. Et les cartes se mettent une par-dessus l'autre, l'intérêt de les avoir transparentes, et c'est uniquement la partie qui reste, qui demeure visible une fois qu'on a joué une carte, qui indique ce qui fait effet dessus le personnage.
Donc, plus t'as des points négatifs,
plus t'as eu un mauvais karma, plus t'as eu une vie difficile.
Donc, plus tu fais de points dans le jeu.
Plus tu vas avoir de points dans le jeu pour ton après-vie.
Et plus c'est d'avoir beaucoup de points pour l'après-vie.
Oui, et il y a plusieurs sortes de cartes, je rentre pas dans les détails, il y a les cartes de tragédie ou d'événements heureux que tu vas mettre qui vont donner des points positifs, négatifs, des fois 0, et il y a des cartes de mort accidentelle que souvent, soit tu vas jouer sur ton propre personnage parce qu'il a vraiment eu une vie difficile, c'est le temps qu'il parte, là, il est vraiment malheureux.
Non, tu veux dire heureux.
Non, il faut qu'il soit malheureux pour qu'il soit heureux dans l'après-vie.
Ouais, mais
fait que tu le tues quand il est malheureux.
Ouais, mais pour lui, c'est le bonheur.
C'est pas encore le bonheur tant qu'il est pas mort.
Ah, ça vient maintenant, ton affaire! Attends. Fait que eux autres, c'est le malheur qui les rend heureux, mais ça donne des points négatifs. Mais pour nous, c'est du positif, parce qu'on veut être négatif, c'est ça?
Essaye pas.
OK. On est qui déjà? On est où?
Pour en revenir à ce que je disais, oui, il y a des cartes qui te permettent d'affecter l'état d'être mort à un personnage. Ça peut être un accident mortel, ça peut être un assassinat, ça peut être une maladie, ça peut être la vieillesse, peu importe. Et le personnage meurt. Tu peux le jouer en général, tu vas le jouer sur tes propres personnages quand tu trouves que leur score de karma est très négatif puis qu'ils valent beaucoup de points pour toi. Mais
tu peux aussi le faire sur tes adversaires pour faciliter leur régularité intestine.
Oui, si tu veux faire chier un adversaire... Un bon québécois. Tu peux jouer une mort sur quelqu'un qui a un score qui s'approche énormément de zéro, ou même mieux, qui est rendu dans le positif. Quelqu'un qui est tout joyeux parce que, je sais pas, il vient de célébrer un mariage, ou il vient d'hériter d'une somme astronomique d'un oncle qui est décédé.
Fait que si je te suis bien, s'il est positif, tu t'arranges pour le tuer pour que ça devienne plus négatif pour toi que positif pour lui.
Non, je pense que t'es perdu. Mais c'est ça, fait que ce jeu-là, c'est vraiment, c'est pas de juste placer les cartes puis d'y aller aux mathématiques, parce que juste ça, le jeu de cartes, disons-le, là, il serait ordinaire. C'est plutôt de vraiment, tu prends le temps, tu lis la description de qu'est-ce qui arrive, c'est quoi l'événement qui va causer à une personne d'être heureuse ou d'être malheureuse, puis là, tu l'expliques dans tes propres mots, puis tu rentres dans le rôle, puis tu t'en beurre épais, ça fait rire.
Et t'essaies d'en faire une histoire qui se poursuit d'une
qui
carte
se tient à la route. Ouais. Puis si t'es capable d'engranger ton histoire avec celle de quelqu'un d'autre, c'est hilarant.
Je me rappelle juste, la dernière fois qu'on avait joué, je pense que tous les malheurs venaient du chien qui était devenu
enragé.
Le maire de la ville qui s'était fait poursuivre par une foule parce qu'il avait détourné des fonds. Il avait réussi à empoisonner le gâteau des enfants de l'autre famille.
Mais c'est le chien qui l'avait mangé. Il était viré malade. Il avait attaqué un autre jeune.
C'était n'importe quoi.
C'était assez comique. C'était assez hilarant.
Bref, est-ce que c'est une valeur plus ou une valeur moins, ce jeu-là?
Ceux qui aiment faire du roleplay puis qui aiment rentrer dans l'action avec leur imagination, avec leur improvisation, avec leur gag, c'est un gros plus.
Ouais, mais t'as dit tantôt qu'il fallait qu'on gagne des moins, là, je mets les moins, là.
Fait que c'est un gros plus pour un jeu où il faut que t'aies beaucoup de moins.
OK, mais c'est pas un gros zéro.
Le suivant, c'est un jeu que c'est toi qui m'as fait découvrir, mais
ouais.
C'est ma section, c'est moi qui en parle.
Oui, je te laisse parler.
Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui est édité par Brother Wright Games.
Je t'arrête tout de suite, la version originale, parce qu'ils ont fait des extensions qui te permettent de jouer plus que ça.
Oui, 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 il y a plein d'extensions, mais
ouais,
là, je parle du jeu original.
Ouais, okay.
Je veux juste montrer la base. Après,
ouais,
si le monde les aime, ils iront
c'est
à chercher
ça,
plus.
C'est juste parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un dans le fond de la salle qui fait
Un des gros avantages de ce jeu-là qui s'appelle Boss Monster, c'est des petites parties qui peuvent se jouer facilement en 30 minutes, puis on peut en jouer plusieurs. Un jeu qui a été designé par Johnny O'Neill, Chris O'Neill et Christopher O'Neill. Quelque chose me dit que ça doit être probablement trois frères.
Ou des cousins.
Ou des gens de la même famille. C'est un jeu pour les amateurs de jeux de société et de jeux vidéo, et aussi de jeux rétro. On fait juste regarder l'image sur la boîte. On créerait voir un mix entre une grenouille et le Bowser de Super Mario et un personnage de jeu vidéo, probablement Final Fantasy 1 ou 2, ou je sais pas quoi.
Qui est en train de tomber vers sa mort.
Oui, et ils sont vraiment en pixel art, pour ceux qui sont connaisseurs. J'expliquerai pas pour les autres. Le pixel art, c'est faire des dessins où on a vraiment l'impression que c'est des vieilles images d'ordinateur de très basse qualité. Et le principe de ce jeu-là, c'est comme si toi, tu étais le designer d'un jeu vidéo et tu dois trouver où tu mets le boss final du jeu et tu dois lui créer un donjon dans lequel tous les joueurs vont périr sans réussir à battre le boss. Alors, t'as un boss qui est dans sa salle. À chaque tour, tu piges des cartes et c'est des cartes de salle ou d'amélioration de salle. Quelques-unes sont des événements. Il y a des salles qui sont des pièges, il y a des salles qui sont des salles pour accueillir des monstres ou pour avoir certains trésors en particulier. Et chacune des salles va avoir un niveau de difficultés spécifiques qui permettent de savoir si un aventurier est capable de la traverser ou s'il va mourir dedans. Ça indique le nombre de dégâts faits à l'aventurier. Et la salle contient un trésor d'un type particulier.
Ou plusieurs.
Des fois plusieurs types. Et c'est ces types-là qui sont importants de voir comment qu'on les arrange, parce que ces types de trésors vont intéresser certains aventuriers, mais pas tous. Il y a certains trésors qui vont seulement attirer les prêtres ou seulement les guerriers. Et quand tu bâtis ton donjon, tu vois d'avance qui sont les aventuriers qui vont partir à l'aventure. Et en fonction des trésors que tu as chez toi, tu vas peut-être être celui qui va attirer un aventurier ou ton adversaire. C'est celui qui a le plus de trésors
d'un
type d'aventurier qui va attirer cet
exemple,
aventurier-là.
Par exemple, si tu as 3 pièces d'or, ben tu vas attirer plus facilement le voleur. Si tu en as 2.
Quand tu regardes la liste d'aventuriers qui s'en vient, ben tu vois leur niveau puis leur force. Fait que là, c'est à toi de juger en plaçant une pièce plutôt qu'un autre. Est-ce que tu veux l'attirer dans ton donjon en sachant qu'il va mourir? Ou est-ce que tu veux éviter qu'il vienne dans ton donjon en te disant que si lui, il réussit à se rendre jusqu'au bout, ton boss prend du dégât puis ça se peut que tu perdes.
Fait que grosso modo, le but du jeu, c'est de réussir à faire tuer le plus d'aventuriers versus tes adversaires.
C'est ça. Il y a un nombre d'aventuriers
sans
à tuer.
Crever.
De mémoire, c'est 10 points d'aventuriers à tuer. Ton boss a un peu moins de points de vie que ça. Alors, de mémoire, dès que tu as pris 4 blessures, tu es game over. Faut faire très attention. Qui tu invites, qui tu t'attends à laisser passer, qui tu t'attends que ton adversaire va laisser passer. Et quand tu es à la phase de création de donjon, chaque joueur dépose une carte face cachée qui va être leur prochaine pièce. Et la prochaine pièce, soit c'est une amélioration d'une pièce existante, soit c'est une nouvelle pièce qui arrive. Pour clarifier ce que je disais tantôt, pour gagner, il faut avoir 10 points d'aventurier mort, 10 armes, et on perd quand on a eu 5 blessures.
C'est pratique d'avoir le jeu sous la main, les règlements pendant qu'on explique.
Les pièces que tu vas mettre vont avoir des interactions avec certaines cartes en main ou avec certaines autres pièces à côté. Quand tu construis, comme je disais, tu mets une pièce face cachée. Et quand tout le monde a préparé sa pièce face cachée, l'étape suivante, c'est de montrer nos pièces, tout le monde ensemble, et de regarder quel aventurier va aller voir quel donjon. Et ensuite, en fonction de qui a quel boss, le boss va faire que le donjon va être activé en premier et qu'on va résoudre celui-là en premier. Il y a des cartes d'action qui vont changer des trucs dans le donjon ou dans les héros, je crois aussi.
En fait, c'est des cartes de sortilège que tu peux piger
à certains événements précis dans le jeu.
C'est ça. C'est si tu tues, exemple, un héros sur une case particulière qui te permet d'en piger, ou certains héros, lorsqu'ils meurent, t'en font piger. T'as même certains boss qui en gagnent automatiquement quand un ennemi est tué.
Les sortilèges sont très puissants, font vraiment des gros revirements de situation. Fait, assez comique parfois, et
assez chien d'autres fois.
Et pour les amateurs de jeux rétro et de jeux de société, je vous le recommande fortement. Allez, au minimum, allez vous informer sur Internet, sur YouTube, quelque chose, de quoi ça a l'air. C'est vraiment comique à jouer.
Si je me trompe pas, les boss sont même inspirés carrément de monstres, de boss classiques ou de personnages classique de jeux vidéo. Si je me trompe pas, il y en a un, c'est carrément à Bobo dans Bleu Dragon, puis un autre, c'est Dracula.
Ils ont juste pas nommé comme
c'est
ça pour pas avoir à payer de couronne.
Ou pour vraiment faire la joke.
Alors, c'était mes 3 petits jeux de société que je voulais présenter. Segment assez court, mais ça n'a pas besoin d'être long
ben
tout
ouais.
le temps. Il faut juste
les
s'amuser.
Les 3, lesquels t'as aimé le plus?
Je pense que de ce temps-ci, je viserais plus Boss Monster parce que je suis dans un trip jeu rétro en ce moment.
C'est vrai, parce que je te ferais remarquer qu'à chaque fois que je te croise, tu viens ici, on est plus que 2. C'est le temps. Ah, il a sorti Boss Monster.
Ah oui, c'est le temps de le sortir.
C'est la peine si je me demande pas si je vais pas t'en acheter un à Noël l'an prochain pour te toi.
Alors, prenez la peine, puis allez regarder ça, c'est vraiment intéressant.
Et juste côté prix, l'homme, il coûte à peu près combien? 30$, me semble? Gros max?
Oui, me semble que moi, il était moins cher que ça. Il me semble qu'il était 15 à 20.
15 à 20.
Ça se peut qu'il soit plus cher, c'est quand même des cartes en plastique.
Et pour avoir acheté Boss Monster, je sais qu'il est à peu près dans les mêmes taux de prix, à peu près 30$, gros max.
Comme quoi, les jeux moins chers sont parfois les meilleurs, ou tout simplement plus simple, donc plus jouable, plus appréciable.
T'es en train de me dire que les 4 autres jeux de société que je me suis acheté, j'aurais dû laisser faire et m'acheter à la place 50 jeux à 10 piastres?
Ah, peut-être, mais il faudrait voir de quel tu parles.
Et maintenant, pour le dernier bloc, je vais vous parler d'un jeu.
Chronique Nécrologique.
Ouais, c'est quasiment ça. Je découvrirais où se trouvent les concepteurs de ce jeu-là, puis ils passeraient un mauvais moment.
Non, moi, je pensais plutôt que t'allais nous dire « Le jeu a fini à poubelle ».
Non, ben, c'est difficile dans ce cas-là. Comme tu le sais, moi, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Fait que, mettez-moi pas Dark Souls dans les mains, Carlis. J'en ai pour des années. Et je vais probablement me retrouver quelque part avec une camisole de force, de l'écume dans la bouche en criant « Les toasts. »
C'est clair, c'est tellement pas ton genre de jeu, t'es trop mauvais pour ça.
Hey! Tu peux bien parler. T'as lâché Bloodborne après même pas le premier tableau.
Non, il m'intéressait pas. Bon. Mais j'ai fait Lords of the Fallen jusqu'à la fin. Et toi, tu l'as même pas fait le premier tableau.
Quoi. Ouais, mais j'ai même pas encore commencé. Fait que, regarde, j'ai d'autres jeux à faire avant. Ça pour dire que, comme tu sais, j'étais un peu nostalgique.
Ah, on est là pour ça.
Ouais, fait que je me suis dit, tant qu'à parler de nostalgie, on retourne dans le fond, du fin fond. On va aller dans les jeux rétro 1987. Un an après que le jeu que nous, on connaît sous le nom de Dragon Warrior, mais que les Japonais connaissent sous le nom de Dragon Quest, est sorti.
J'avais 10 ans à l'époque.
Et puis moi, à peu près la même affaire.
Si je me trompe pas, je pense qu'à cet âge-là, ça faisait pas longtemps que j'avais ma Nintendo, puis par miracle, je sais pas comment j'ai fait, mais mes parents avaient accepté que la vieille télé et la Nintendo se retrouvent dans ma chambre.
Donc, 1987. Nintendo aux États-Unis, puis par conséquent, nous autres au Canada, on n'a pas vraiment eu beaucoup de RPG ou de JRPG, si on préfère. On a eu Dragon Quest, on a eu Final Fantasy quelques années plus tard, mais...
Les Zelda aussi sont sortis plus tard que ça, mais ça...
Je les ai matés justement pour ça. Zelda est sorti en 1987.
La même année?
Oui.
Par contre, ça en était autant.
Puis Final Fantasy 1 en 1990, tandis que les Dragon Warrior, l'un aux États-Unis, il est sorti en 89, mais eux au Japon, il était sorti en 86.
OK.
Le 2 au Japon est sorti en 87. Le 3 est sorti en 88, puis le 4 en 90. Fait que eux autres, ils ont sorti ça, bang, 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 bang.
Ben, à l'époque, c'était pas mal le temps que ça prenait de développer un jeu, de réussir à surfaire du cash. Là, en un an, t'as le temps de faire un Dragon Quest. Ah, t'es théorie.
Tout ça pour dire que ça a l'air que c'est trop compliqué les RPG. Ça a l'air que le public américain comprendrait pas comment ça marche. Fait qu'ils en ont pas sorti beaucoup. Pourtant, au Japon, t'en as des trollés et des trollés et des trollés. Fait que là, je me suis dit, avec les nouvelles technologies qu'on a de nos jours, il y a moyen d'aller les chercher en version traduite et de les essayer.
T'en as-tu trouvé finalement?
Mais j'aurais pas dû. Tu sais, dans les films d'horreur, quand ils disent « Va pas dans la maison, dans le fin fond du bois, est tenté, il y a une malédiction ou quelque chose, vas-y pas, t'as tout le temps un tata qui y va. »
Mais c'est toi le tata qui y a été. Là.
C'est ça, j'y étais pour vous, je me suis sacrifié. Je suis revenu avec un esprit un peu encore traumatisé du fait. Alors, je vais vous parler donc du jeu qui s'appelle Glory of Heracles. Et oui. En japonais, ça s'appelle Toji Makyo Den Heracles no Aiko, ce qui peut être traduit comme étant Glory of Heracles, Labor of the Divine Hero. Et c'est sorti sur Famicom. Et nous, on l'a pas eu ce jeu-là. Et...
Dieu merci pour vous.
Mais c'est quoi le lien entre ça et Hero Quest? Ou Dragon Quest? C'est Hero Dragon?
Dragon Quest. C'est que c'est le même principe de jeu. C'est un RPG classique, en vue du dessus, avec...
Énormément de texte.
Ouais, énormément de texte. Ben, en fait, les actions sont décrites, mais côté texte, je te dirais, c'est là que ça blesse. Puis ça blesse vraiment. Ça blesse vraiment. Laissez-moi vous expliquer un peu. Alors, imaginez du pixel art en
8 bits.
Ça va être un running gag, je pense, pour cet épisode-là.
Ça va tout le temps.
8 bits.
Non, faut que tu y ailles avec une voix plus sensuelle.
8 bits.
Non, là, t'as l'air d'une grenouille.
Ça va être... Non, mais attends. Attends de faire du montage, tu vas avoir une voix de démon avec ça.
Ouais, mais dans le cas présent, c'était plus genre pour vous vouloir
avoir... 8 bits. Ouais. 8
bits. On dirait une colonie de grenouilles, mais dont il y en a un qui s'est fait greffer des...
Une voix sensuelle.
8 bits. Ouais, quelque chose de même.
Mais moi, c'est pas sensuel, je suis sûr.
Ouais, après ça, quand t'arrives sur Super Nintendo, c'est là.
16 bits. Il y en a deux fois plus pour les petites cochonnes.
On parlera pas du Nintendo 64 parce que là, sinon, on restera pas ensemble jusqu'à la fin. OK. Ma voix, elle peut pas descendre plus grave. C'est sorti en 87. Là-dedans, on joue évidemment Héraclès alias Hercule.
Pour ceux qui connaissaient pas.
C'est un RPG qui se passe en Grèce antique.
Pourquoi ils disent tout le temps la Grèce antique? Pourtant, la Grèce a jamais été faite avec des tiques.
T'entends-tu la mouche qui vient de passer? C'est la seule qui a apprécié ta joke.
On parle de tic, pas de mouche.
Ouais, mais c'est la seule qui a apprécié ta joke. Le premier est extrêmement mauvais, mais les suivants, parce qu'ils n'en ont pas fait juste un, hein. Ils en ont fait jusqu'à 6.
Ben, ça veut dire qu'ils devaient penser que c'était bon.
Ben.
Ou que ça s'est vendu.
Ça s'est peut-être vendu au Japon, mais je te dirais que les autres sont meilleurs. Puis le plus récent date de 2010 sur DS.
OK.
Mais laissons faire les autres, revenons au premier, parce que c'est lui le cauchemar.
C'est lui le problème de la série.
Oui, tu peux pas savoir quel...
C'est la brique défectueuse dans le bas du mur.
Oui, c'est ça. Alors, premièrement, la map principale du jeu est unique. Les villes, les villages, la forêt, tout ça est une même map.
Donc, dans le fond, la carte dans laquelle tu joues est loadée d'un seul coup en mémoire. Tout ce que tu as à voir est déjà disponible. Pas de temps de loadage quand tu voyages.
C'est ça.
Donc, pas de coupure à sortir d'un village pour arriver ailleurs.
Contrairement à d'autres RPG où tu avais une carte externe, puis dès que tu avais des icônes pour représenter les villages, tout le kit, et quand tu rentrais dans un village, ben, ça loadait
le village. Ça loadait une nouvelle carte. Puis quand tu rentrais d'une maison, ça loadait une nouvelle carte.
C'est ça. La seule différence qu'on pourrait dire, c'est de manière générale, c'est ça. Mais dès que tu rentres dans un don, ou dans une maison, là, ça va loader. Le reste...
Une grosse carte avec la ville à l'échelle.
C'est ce qui les différencie de Dragon Quest. Ils ont commencé avec ça pour le premier. Ils ont enlevé ça pour les suivants, mais on s'égare. T'as un menu de base où tu vas pouvoir faire tes actions habituelles dans un RPG, c'est-à-dire parler pour parler au NPC. Un menu item, que je revenais dans quelques secondes. Un menu équipement qui te permet d'écrire ton équipement. Et un menu search qui te permet de fouiller le carré où ton personnage se trouve.
Oh boy, ça veut dire que si tu cherches quelque chose puis que t'es pas sûr c'est où, cherche, avance un pas, cherche, avance un pas, cherche. Oh, je pense que j'ai trouvé un micro.
Effectivement. Fait qu'imagine, il y a beaucoup d'objets dans le jeu qu'il faut que tu trouves demain. Puis ils disent pas où. Faut que tu le saches.
Vive la revue Nintendo Power de l'époque.
Ça existait pas au Japon. Fait que déjà là, vive Internet de nos jours.
Ça veut dire qu'il y a des petits cracks qui ont réussi soit à aller hacker la carte du jeu ou qui ont joué assez pour être capables d'en dessiner des vraies bonnes.
Je te dirais un mix des deux. Il y a du monde plus masochiste que moi. T'as ce menu-là. Dans le cas des combats, ben t'as un menu où tu peux soit attaquer, utiliser tes items, aller changer ton équipement pour changer d'arme, parler aux monstres, ce qui marche pas 95% du temps.
Hey, la slime, on peut-tu discuter de ton avenir dans le domaine la terreur plutôt que de juste me sauter à la gorge?
Le genre de discussion qui marche pas.
Généralement, les discussions, c'est juste du nargage entre le héros et l'autre. Fait que ça ne sert pas grand-chose. Ensuite de ça, évidemment, ben, tu peux fuir.
Et tout ça en étant du texte en blanc sur un fond d'écran noir en dessous des images.
Ouais, ben à l'époque, ça ressemblait un peu à ça, les RPG. Là.
Oui, c'était classique. Quand je disais tantôt, beaucoup de texte, c'est ça que je veux dire par là.
Vu que c'est un RPG, faut que tu le sauvegardes de temps en temps.
Oui, il faut que tu le sauvegardes.
Ouais. Alors, comment marche la sauvegarde dans le jeu?
Trois petits coups sur le côté de la console avec un bat de baseball.
J'aurais voulu. Faut que tu ailles dans la deuxième ville que tu découvres dans le jeu. Tu rentres dans un temple, tu parles à une statue, elle te donne un mot de passe. Et à partir de là, dès que tu as le mot de passe, tu peux fermer ta console. Et quand tu vas rejouer au jeu, tu rentres le mot de passe. Et ça te permet de recontinuer ta game. Et tu conserves tes items, mais ça reset dans les donjons les items que tu as pognés et les boss. Fait que si tu fais des erreurs, ben tu peux dire ok, c'est pas grave, je vais aller faire le donjon pour récupérer les thèmes qui me manquent. Fait au moins un point positif.
Dans le fond, il fonctionne un peu de la même façon que les livres dont vous êtes le héros. Il te donne un code pour retourner un certain paragraphe dans le jeu.
Mais bon,
il pourrait avoir mieux.
Comme un RPG classique, t'es censé avoir de la magie.
J'imagine.
Dans celui-là, t'en as pas au départ.
Au départ, mais éventuellement, il y en a.
Tu récupères des items qui te permettent de faire des sorts, mais ça te coûte des points de vie.
Ok, c'est du Blood Magic. Prendre le meilleur des deux.
Donc, ça te prend des points de personnage et c'est des items. Fait qu'il faut que tu saches exactement quelle magie tu veux conserver parce que ça fait partie des items que tu vas devoir traîner sur toi. Ça, c'est le premier gros blâme que j'ai au jeu. Tu peux juste avoir 7 fucking items dans ton pack-sac.
Ils ont quand même été généreux de t'en donner 7. 7 étant un chiffre chanceux.
Fait que tu passes toute ton aventure à gérer tes items, à dire
est-ce que j'ai encore besoin de ça? Est-ce que j'ai plus besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai plus besoin de ça? Ça, j'en ai-tu besoin? Non, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai-tu besoin de ça? Non. Est-ce que ça, c'est plus fort? Est-ce que cette arme-là est plus puissante que celle que j'avais avant? Oui, non, non, oui, non, non, oui.
Puis là-dessus, les armes...
Ben regarde ça, au moins dis-toi que t'en as appris quelque chose. Aujourd'hui, t'es pas un hoarder, un ramasseur de cochonneries que tu gardes partout entreposé à quelque part. Au moins, t'as appris à gérer ton stock puis à jeter ce qui sert un peu. Excepté les jeux vidéo, les films, les jeux de société, les posters d'animés.
Tu peux t'arrêter d'écrire la pièce dans laquelle tu te trouves, s'il te plaît? Tu me fais honte! Fait que t'as droit à 7 items. Là-dessus, sur les items, t'as des armes. T'as droit à jusqu'à 3 armes que tu peux équiper et changer durant les combats. Ce qui est particulier, c'est que chaque arme a son utilité. Les arcs servent pour les ennemis aériens. Oh les tridents servent principalement pour les ennemis aquatiques. Certains items magiques qui vont te permettre de faire des sorts vont être utiles hors des donjons. D'autres vont blesser les ennemis dans les donjons. T'en as qui attaquent les ennemis aquatiques ou pas.
Oui.
Fait que tu dois déjà décider des items que tu as besoin. Là-dessus, tes armes, ils ont de l'usure.
De l'usure dans ce jeu-là, alors que tu as juste 7 items transportables.
Ouais.
C'est cochon.
Ouais. Ils ont l'équivalent d'une barre de vie, si on veut. Chaque fois que tu les utilises, ils commencent à s'user. Quand ça atteint zéro, l'objet se détruit. Ça, c'est pour les armes, les armures et les boucliers.
Ça aurait fait un excellent concept de jeu pour arcade. La quantité de 30 sous que tu aurais eu à passer pour finir ça.
Tu peux aller dans les villes et les réparer avant que ça se détruise. Mais tu as une autre option. Au début du jeu, dans la première ville, Athènes, évidemment, parce qu'on est en Grèce, tu peux rencontrer le dieu Héphaïstos, qui est évidemment le dieu forgeron. Tu peux le payer.
Peux-tu le payer en nature?
Non. Tu peux lui payer 5000 gold piece pour qu'il t'accompagne.
OK.
Sauf qu'il prend une place dans ton
équipement. Dans ton équipement. Ah, oh, tabarnak.
Fait que dans ton pack sac, t'as un gros gars poilu qui est dedans à côté de tes potions.
Puis pour autant que tu saches, t'es plus sûr ce qu'il y a dans tes potions après parce que tu vois pas ce qu'il fait dans ton pack sac quand t'as les yeux tournés.
Et beaucoup plus tard dans le jeu, juste pour te donner une idée d'à quel point c'est n'importe quoi, tu vas tomber sur un vieux bouclier rouillé dans un des donjons. Si tu as Héphaïstos dans ton pack-sac, tu peux aller lui parler dans ton pack-sac. Et lui, il va dire « Ah, je vais te le polir, ce bouclier-là. » Et s'il fait, ben tu découvres ce vieux bouclier de marde-là. En fait, c'est le bouclier de Zeus qui est le bouclier le plus puissant du jeu.
Et ça, tu peux le savoir seulement si tu as Héphaïstos dans ton pack-sac qui est en train de remplir tes bouteilles de potions d'une substance blanche et visqueuse.
Ou jaune. Fait que, tu sais, tu as ce gars-là dans ton pack-sac.
Et que ça doit être plus à marde dans ce pack-sac-là.
T'as aussi, plus tard, tu vas récupérer un bateau. Je te laisse deviner où tu le mets, le bateau. Dans le pack-sac.
Dans les bras d'Héphaïstos.
Dans le pack-sac. Imagine.
Il est gros en crise, ton pack-sac.
Ouais, mais tu peux juste transporter 7 putains d'items.
Un pack-sac poche dimensionnel limité en quantité d'items et non pas en espace requis. Ouais.
Fait que tu vois que ça commence déjà à tomber un peu sur le site de où c'est qu'ils s'en vont.
Puis le pire, s'il aurait réfléchi comme il faut, il me semble que dans un bateau, il y a une cale, puis on aurait pu mettre des affaires dedans. Tu demandes à Héphaïstos d'aller te les chercher dans ton pack-sac.
Je le sais, mais ils n'ont pas pensé à ça. Tu comprends-tu, Francis? Ils n'ont pas pensé à ça! OK, je me calme.
Le truc? Arrêtez de jouer, passez à autre chose.
Il n'y en est pas question. Je voulais le finir, c'est-tu clair? Hey, mais je pense, Francis, en plus de ça, t'imagines-tu si ça arriverait pour de vrai l'histoire des 7 items dans un sac? Imagine, à l'époque, la Grèce antique, s'il y avait juste l'espace pour 7 objets dans leur sac quand ils partaient le matin ou qu'ils revenaient le soir. T'imagines-tu le gars, il arrive pour partir de chez lui le matin?
Ok, je m'en vais, là.
Ouais, mais va chercher du beurre, du lait pis du chocolat au métro en même temps, là.
Ah, tu sais bien, chérie, que j'ai juste 7 places dans le sac. Faut que j'aille porter les vidanges au chemin tantôt. Pis à soir, ben, faut que je ramène notre fils de la garderie.
J'ai vraiment envie de chocolat, ben, là.
Bon, ben, on n'aura pas le choix, hein. On va le laisser à la garderie.
Non, ben, t'as pas le laisser à la garderie, là. Mais bon chocolat.
Ben oui, mais regarde, à son âge. Il y a l'âge pour être émancipé, là. On va le laisser là pour cadeau. On va être capable de retrouver son chemin.
Tu vas pas me faire ça, va me chercher mon chocolat
et
ramène mon fils.
On va être obligé de faire tout un voyage, merde!
Laisse le tour à la maison, tu iras à pied, tu vas avoir une place de plus dans ton sac.
Tu peux te téléporter d'une ville à l'autre grâce à une tank qui s'appelle les ailes du voyage ou travel wings en anglais.
Que tu dois accrocher au mât du bateau dans les bras d'Héraclès dans ton pack-sac.
Quelque chose comme ça. Mais ça te permet de te téléporter d'une ville à l'autre. Et la seule manière d'avoir dans ta liste de villes le nom de la ville, c'est qu'il faut que tu parles à un personnage dans la ville qui va dire bienvenue dans Athènes ou etc. Fait que si t'as oublié de parler au personnage, tu y as pas accès.
Et t'es obligé de l'avoir visité une fois avant.
Ouais. Fait qu'une fois que t'as trouvé la place pour sauvegarder, que je te rappelle, c'est seulement dans la deuxième ville du jeu, tu peux facilement te téléporter dans celle-ci pour pouvoir aller sauvegarder ta game. Mais, faut que tu la trouves, cette ville-là.
Puis avec une seule map en continu, sans loading d'une ville à l'autre, tu peux te perdre facilement, il n'y a rien. Qui te dit qu'il faut que tu ailles à gauche plutôt qu'à droite en sortant?
Ouais, et ce qui m'amène au premier problème que j'ai eu avec le jeu. Ben, en fait, le troisième, si tu tiens compte de les items qui se brisent, le maximum d'items que tu peux avoir, tu commences le jeu dans une ville, Athènes. Tu sais pas trop ce que tu fous là, à moins que t'aies été sur Internet pour voir c'est quoi l'histoire. Tu parles un peu au NPC, il te donne des indices bien classiques, genre, va à telle place, va à autre place.
Il y a pas de didacticiel pour t'apprendre à jouer.
C'est ça.
Il y a pas de cutscene d'intro pour te dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu dois faire. Tout ce que tu sais, c'est, quand je bouge ma manette, lui bouge là. Mais, j'imagine que c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais dans l'univers.
En parlant aux différents personnages d'Athènes, que Athènes prend quand même un bon bout de la map, tu finis par savoir que faut que tu ailles dans une ville qui est au sud d'Athènes. Je t'ai montré les premières images du jeu tantôt, si tu te rappelles. C'est sûr que j'avais la main nette dans les mains, puis j'étais comme crispé dessus, mais t'as réussi à me l'enlever des mains, puis on a appelé mon thérapeute, puis depuis ce temps-là, ça va bien.
Oui.
J'ai découvert qu'il fallait aller vers le sud. Vers le sud, pour vous faire une image mentale, vous qui nous écoutez, c'est l'océan. Sauf que si tu vas au nord de la ville d'Athènes, il y a une grande route, on pourrait quasiment dire que c'est l'équivalent de la 140. Là. Il y a plusieurs voies de large. Là, t'sais. Ça monte vers le haut, ben ça tourne vers la gauche ou vers la droite. Fait que tu vas visiter là, tu dis c'est probablement là qu'il faut que j'aille. Mais là, tu te fais attaquer. Puis après avoir monté d'assez haut niveau, tu es capable de survivre au combat. Tu fais des allers-retours de là à aller à la ville pour faire réparer tes armes. Tu retournes là. Finalement, tu finis par explorer la zone qui t'est accessible.
Oui.
Tu tombes sur plusieurs villages, mais pas celui que tu cherches.
OK.
Rendu à niveau 20. Je suis sérieux.
Faut que tu fasses 20 niveaux?
Non. J'ai monté jusqu'à niveau 20. Je me suis écœuré. J'avais tout exploré la zone du haut. J'avais tué deux boss.
Sans jamais sauvegarder.
Sans jamais sauvegarder, effectivement.
D'un seul coup, sans jamais mettre une pause.
C'est ça.
Sans jamais aller manger. Sans boire, sans dormir.
C'est à peu près ça, oui.
Après 8 heures de jeu continu.
Ouais, il y avait du monde qui me cherchait. J'étais devant mon écran. Tout ça pour dire que, après être monté niveau 20, d'avoir tué 2-3 boss, d'avoir été dans un temple échangé un item contre un arc, être rendu assez haut niveau que ces bébêtes-là me font plus mal, mais je suis capable de les tuer d'une shot, sachant que tu peux monter jusqu'à niveau 30.
Maximum.
Ouais.
Déjà le 2/3 de fait.
En XP. Étant écœuré, j'ai décidé d'aller voir quelques walkthroughs sur Internet. Des guides de jeu.
Pour savoir où aller ensuite.
Ouais, parce que là, ça faisait. Quand j'étais tanné, j'avais tout visité le secteur, j'avais trouvé toutes les villes, sauf celles que j'avais besoin.
Ça me rappelle quand j'ai joué à Morrowind, mais ce sera une autre histoire.
Yep. Donc, après avoir fouillé sur Internet, je cherchais des guides qui disent ah, t'as un chalet à telle ville. Oui, mais c'est elle que je cherche. C'est elle que je cherche, Calice. Et après avoir vu 2h30 de vidéos sur YouTube de Let's Play pour finalement découvrir où fallait que j'aille, tu veux te savoir c'était où?
Je dirais qu'il fallait que tu rentres dans le clocher de l'église, que tu ailles en dessous au sous-sol, tu passes par la crypte, t'as un passage souterrain qui te fait traverser de l'autre côté de la rivière ou de l'océan, puis tu réapparais de l'autre côté direct dans la ville que tu cherches.
Ça aurait été trop facile. Les concepteurs, comme t'as pu voir, ils aiment nous troller.
Oui, très souvent.
Dans ce jeu-là, avec le nombre d'items et toute la kit, c'est leur passion. Je suis quasiment sûr qu'ils sont chez eux présentement.
Puis ils en rient encore depuis 30 ans.
Soit ça, ou ils ont une grosse bouteille de lotion pour massage et je te laisse donner qu'est-ce qu'ils font depuis 30 ans. Ils ont passé des boîtes de Kleenex. Tout ça pour dire, le mur d'Athènes fait le tour de la ville, sauf à trois endroits spécifiques. La partie où il y a l'océan, la grande route que je te parle, puis un petit trou dans le mur. Un petit crisse de trou de une case.
OK.
C'est là, faut que t'ailles.
Dans la ville d'Athènes?
Ouais.
Ouais, c'était presque la description que j'avais faite, moi la chapelle.
Ouais. Fait que je te laisse imaginer. T'arrives dans l'autre ville, tu croises un boss que t'es pas censé être capable de battre selon les walkthroughs, parce que t'es censé être niveau 3.
Mais toi, tu l'as one-shoté.
C'est à peu près ça. J'arrive dans la ville, je peux avoir enfin un mot de passe. Fait, imagine, t'es au Japon. T'es un petit jeune. T'as eu ça comme cadeau de Noël. C'est ton seul jeu que tu vas avoir avant le Noël suivant. Tu commences à jouer. Ça fait 2 heures que t'es là, pis ta mère a dit:
ferme le jeu, faut aller souper. Mais j'ai pas encore trouvé le moyen de sauvegarder. Ferme le jeu, je te dis.
Le lendemain, il rejoue.
Ferme le jeu, c'est temps de souper.
Le lendemain.
Ferme le jeu.
Non, c'est sûr que ça a pas dû être le plus populaire des systèmes qu'il y avait.
Mais bref, une fois que t'as sauvegardé, le fun commence. Parce que je t'ai pas encore parlé des donjons. Si on résume rapidement, imaginez des labyrinthes. Vous avez les petits livres de coloriage où t'as un labyrinthe avec des petits chemins. Faut que t'ailles du point A au point B. C'est juste des longs couloirs.
Oui, puis il y a tout le temps des couloirs sans queue ni tête qui mènent à des cul-de-sac.
Imagine ça. Si t'as pas d'éclairage, tu vois juste ton bonhomme. Si t'as une chandelle que t'as achetée à Athènes, ben, t'es capable de voir la case en avant de toi, la case en arrière de toi, puis la case au-dessus de toi et la case en dessous de toi. Donc, un carré de 3 par 3.
Fait que tu vois vraiment pas loin.
Non.
Mais ça, c'est juste parce que t'as pas été chercher ta chandelle chez nos moines trappistes.
Non, c'est sûr. Plus tard dans le jeu, tu réussis à trouver l'item le plus puissant pour pouvoir voir loin dans la noirceur, une lampe qui permet d'avoir un carré de 5 par 5.
Oh boy, c'est pas gros ça, me semble, la taille de l'écran.
Nope.
C'est même pas 25%.
J'ai essayé au début de me faire mes propres maps parce que je me suis dit, regarde, on va jouer comme c'était censé être joué à l'époque. Je me suis écœuré au bout de 5 minutes. J'ai tapé Google puis je suis allé me chercher la map parce que pas faisable.
Mais tu vois pas assez loin pour être capable de savoir si t'es déjà passé par là ou pas.
Un GPS serait même pas capable de se retrouver.
C'est sûr, à l'époque, ça n'existait pas.
Ça serait du genre...
tourner à gauche, non, à droite, non, peut-être reculer, non, peut-être avancer.
Carrément. Je t'ai parlé des donjons, je t'ai parlé de la déportation, je t'ai parlé d'équipement. Maintenant, parlons un peu de la caille.
Ouais, celle qu'on te donne pas au début, que tu devines par toi-même.
En parlant un peu à droite à gauche au fil de l'histoire, tu vas tomber sur des renseignements.
Oui, mais honnêtement, qui lit tout?
Ceux qui veulent comprendre l'histoire, qui font pas skip, 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 skip,
okay, skip.
Fatigué.
Non, mais il faut que je te rappelle.
Ouais. Petite histoire rapide, parce que là, je te le décrirai pas toute.
Ben non, parce que sinon, non. Je vais te faire skip.
C'est ça. Mais grosso modo, Aphrodite s'est faite kidnapper par Hadès, le seigneur de l'enfer, et tu dois la sauver. Pour ce faire, tu dois tuer 12 monstres incroyables.
Les 12 travaux.
C'est ça, pour récupérer des items qui vont te permettre de parler aux différents dieux, que les autres vont te donner d'autres items, faire aller d'un temple à l'autre pour parler entre eux, pour pouvoir trouver des items pour trouver la porte pour aller en enfer. Tu me suis jusqu'à présent?
Non, mais je t'écoute.
Alors, je rentrerai pas dans les détails, mais juste pour te donner quelques idées des éléments de quête, pour tuer un des boss, faut que t'ailles en ta possession une carotte pour qu'il spawn et t'attaque. Si t'as n'importe quoi d'autre comme item, il spawnera pas dans le secteur où il est censé apparaître. Et faut que tu saches exactement où il va apparaître.
Hé, hey, méchante carotte.
Juste pour te donner une autre idée, à un moment donné, faut que t'aies le miroir du destin.
Sinon, ton destin, il se reflète pas
ça.
Bien.
Pour l'avoir, il y a le temple de Arès, pas Hadès, Arès, le dieu de la guerre. Là. Si tu te rappelles de ta vieille série Hercule avec Kevin Sorbo, là, c'était celui qui était de méchant, c'était pas lui qui était en enfer. Là.
Oui, okay, oui, okay, je me rappelle exactement
ça. Arès a un temple. Derrière le temple, il y a une chaîne de montagne. De l'autre bord de la chaîne de montagne, tu vois qu'il y a un petit peu de terrain, fait que probablement plus tard dans le jeu, tu vas t'y rendre. Quand tu rentres dans le temple, tu peux parler à Arès. Plus tard,
une discussion. Enfin, ton menu talk va servir.
Oui, attends de voir. Plus tard dans le jeu, tu arrives de l'autre bord de la chaîne de montagne. Si tu es directement dans la case qui fait face au temple de l'autre côté de la chaîne de montagne et que tu pèses sur talk,
la montagne te répond.
Ben, en fait, c'est Arès qui te répond depuis son temple de l'autre bout qui te crie et il dit fait qu'évidemment là tu recules, tu fais search. Qui c'est qui va penser à aller lui parler de ce bord-là de la montagne si c'est pas dit nulle part?
Ah, c'est clair. Surtout que la plupart penseraient faire search plutôt que talk dans le vide.
L'armure la plus puissante du jeu, elle se trouve dans une baie. Tu sais, une baie, là, pas le fruit, mais le où il y a de l'eau, là. OK?
Ouais.
Il y a à peu près une vingtaine de cases. Faut que tu fasses search dans une case particulière pour la trouver. Il y a aucun indice pour le dire.
Il voulait que tu le fasses dans toute la baie.
Non, tu sais même pas que tu vas trouver ça là.
Oh ah. Boy.
Ouais.
Il n'y a pas d'indice qui dit qu'il y a une arme dedans.
Nope! Il n'y a personne qui dit que l'armure est là.
OK, fait qu'il voulait vraiment que les joueurs fassent search sur chaque putain de case de la map où ils ont accès.
Ouais. Plus tard dans le jeu, t'as un désert avec du sable qui fait des dégâts. Et il y a 6 pyramides. Chacune, c'est le même foutu donjon. Copier-coller. Dans un, deux, il y a l'item que t'as besoin.
Mais tu sais pas lequel.
C'est ça.
Et rendu là, sans walkthrough, c'est comme difficile. Ou puis avec un trou, ben ça peut venir plate.
Faut que tu sois masochiste un peu. Mais ça va bien. Jusqu'à présent, j'étais encore sain d'esprit. Du moins, selon les trois thérapeutes et les voix dans ma tête.
On n'a pas remarqué la différence.
Je sais. Alors, à un moment donné, il faut que tu ailles dans un donjon qui est pas obligatoire, mais où tu peux trouver ce qu'ils appellent le spring drop, la goutte du printemps, que tu dois obligatoirement conserver jusqu'à la fin du jeu. Mais il n'y a rien qui te le dit. Plus loin, tu vas faire plusieurs aventures pour finalement trouver le moyen de rentrer en Hadès. Je t'ai parlé des donjons. Le dernier donjon fait 8 étages.
Oh tabouin.
8 étages. Ils ont décidé de faire une joke. Avant que tu rentres dans le premier niveau, tu dois battre le Cerbère. Si t'as de la difficulté à le combattre, ben, il y a un marchand quelque part dans une des villes où tu peux acheter un os. Ça l'immobilise, puis ça le tient tranquille, fait que tu peux le taper dessus.
C'est n'importe quoi. Comment troller?
Quand t'es rendu à la fin du jeu, après être descendu les 8 étages, que t'arrives au boss final, qui est dans une salle secrète derrière son trône, qu'il faut que tu trouves par toi-même, parce qu'il y a personne qui te le dit. Les 10 ombres de lui qui se promènent dans la salle, fait qu'une d'elles, tu te dis, c'est peut-être le boss. Nope. Une fois que tu as trouvé Hadès, que tu l'as battu sur ses deux formes, le jeu est pas fini.
Ok, continue.
Faut que t'ailles le Spring Drop pour l'utiliser sur une espèce de bulbe pour le faire éclore, parce que Aphrodite est dedans. Fait que si tu l'as pas, ça ressemble à quelque chose comme tu bats le boss, puis là tu fais...
Tu retournes chercher ce qui te manque, puis que tu reviennes leur battre à nouveau.
Puis t'imagines-tu pour la fille, hein? Elle doit arriver, elle doit tuer le gars, elle fait
« Ah, enfin mon sauveur! »
Puis toi c'est
« Un instant, je reviens, j'ai oublié la clé. Je vais revenir le mois prochain, c'était long faire le trajet. »
C'est à peu près ça.
Mais si c'est compliqué à ce point-là, explique-moi qu'est-ce que ça a rapporté de faire tout ça?
La satisfaction de l'avoir battu, ce petit jeu-là.
C'est-tu vraiment satisfaisant ou c'est enrageant de l'avoir joué tout le long?
C'était enrageant. Mais après ça, j'étais satisfait de l'avoir fini. Mais tu veux savoir le plus drôle?
Vas-y.
J'ai commencé à jouer aux deux.
Père qui est pas aussi pire?
Non, non. Non, non. Il est vraiment meilleur. Imagine Dragon Quest 2 ou 3 où t'as plusieurs personnages, où il y a une histoire, ils te disent où aller, où t'as enfin des NPC qui te disent « Voici un objet de quête, va dans telle ville, t'as pas à chercher 10 000, t'as pas besoin de faire la map au complet! »
Finalement, ton Héraclès machin truc, c'était juste l'ébauche d'un jeu pour se préparer au vrai jeu qui allait sortir plus tard.
C'est ce que je pense.
C'était juste une base pour voir s'il était capable de faire le début. Puis ensuite, il allait mettre tout le corps puis le truc intéressant autour. Puis ensuite, ils se sont rendus compte que finalement, on fera pas cette histoire-là, mais au moins, on sait comment ça marche.
Mm-hmm. Je te dirais que le 2 est meilleur que le 1. Ils ont fait le 3 et le 4 sur Super NES. Ils en ont fait un sur Game Boy, je pensais Game Boy Advance, puis l'autre sur DS. Puis ça a l'air qu'ils se sont rendus jusqu'à 6, c'est que les autres sont meilleurs que le 1. Puis le 2, là, il est sorti juste 2 ans après le premier.
Ouais, mais ça fallait l'expérience du premier pour qu'ils apprennent.
T'appelles ça de l'expérience?
Ben, c'est les erreurs qui nous en apprennent le plus d'habitude.
Bon, moi, je vais te quitter, je vais aller assassiner le concepteur du jeu avec une chaîne ça ou quelque chose de même, puis je regarde l'heure, là. Je pense qu'il est tard, là.
Ouais, je pense que ça va être l'heure de fermer la shop, là.
Que salut! N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook.
Et pour tous les amateurs, bon gaming!
À la prochaine!
À la prochaine, une bonne semaine à tout le monde! Il est 3 heures, on ferme!